Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin, vous n'avez pas l'air convaincu que les villes indiennes soient particulièrement vivables.
Je connais quelques-unes, mais pas vraiment. Non, je crois que la transition est difficile à assurer. Bonjour, bonjour Guillaume Werner et bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Alors vous êtes conseiller au club du CEPI, mais surtout vous avez fait paraître récemment L'Inde pour les nuls aux éditions First. Et puis alors vraiment, il est tout chaud, l'économie de l'Inde à la découverte, à la collection Repères, fort utile. Et c'est la troisième édition entièrement refondue et mise à jour, donc l'économie de l'Inde. J'ai pioché évidemment pour rafraîchir mes souvenirs. J'ai pioché dedans. Alors avant la disparition de l'URSS, les États-Unis étaient devenus le premier partenaire de l'Inde. L'économie indienne s'est beaucoup asiatisée. Vous citez un certain nombre de chiffres. Et puis de son côté, l'Europe échange beaucoup plus avec la Chine qu'avec l'Inde. On va peut-être en rappeler la nature des exportations et des importations respectives. Sachant que l'Europe aussi, il faut toujours rappeler, c'est une vérité d'évidence, on enfonce une porte ouverte. L'Europe, c'est 28 commerces extérieurs spécifiques et différents. Donc, on va parler des relations économiques d'Europe avec l'Inde, l'Inde et l'Europe. On commence par la France, le petit morceau. La France, alors fin du voyage du président français, inévitable question, les rafales.
Les rafales, c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. En fait, c'est le verre vu de France ou le verre vu d'Inde. Quand il est vu de France, on a l'impression que c'était le seul objet de cette visite et qu'on allait les signer, qu'on allait les vendre, que ça ne coûtait que 4 milliards. Et puis vu d'Inde, c'est pas du tout le même tableau. Et donc, on est dans la problématique. Vous savez, le proverbe, quand un Indien va en Inde, il faut qu'il soit patient et s'il l'est, il la perd. Alors, il faudra être très patient sur ce dossier. On se demande s'il n'est pas maudit, sans jeu de mots, vous m'en excusez. Quand même, parce que au départ c'était 4 milliards et puis ensuite c'est tout d'un coup 24 heures avant la visite, c'est passé à 9 milliards. Alors évidemment, du côté indien, ça se traduisait tout simplement, quand on lâche un chiffre comme ça, c'est que Dassault demandait 9 milliards et qu'entre 4 et 9, ça fait une petite différence.
Cet avion d'ailleurs, Joseph Boileau, Rafale, est longue vie à lui, mais cet avion, et ça je ne me demande plus, il est maudit par les effets d'annonce. On pense au Brésil, etc. Il faut arrêter.
Alors simplement, il est très important parce que du côté français, il faut quand même bien comprendre, c'est bien les Indiens qui l'ont demandé aussi quand même. Donc du côté français, ça traduit le rôle absolument essentiel dans la diplomatie indienne de l'approche multilatérale. Et qu'on le veuille ou non, même si l'Allemagne fait beaucoup plus de parts de marché que la France, puisqu'on
3,5, est à, je crois.
Voilà, on est comme moins avec, de 1% pour la France et on est quasiment à 4 pour l'Allemagne, de 1 à 4, donc il n'y a pas photo. Mais en termes diplomatiques, le problème de l'Inde, il est assez simple. C'est que vous avez tout en haut, sur le marchepied, les deux super grands, la Chine et les États-Unis. Puis après, vous avez quoi? Non, pas vous avez pas rien. Vous avez 8 puissances dites moyennes, secondaires. Et dans ces 8, il y a la France et il y a l'Inde. Et donc, il est indispensable pour la diplomatie indienne qui ne recherche pas la superpuissance puis qui n'a pas les moyens de la superpuissance. C'est quand même, par rapport à la Chine, un rapport de 1 à 5 dans la puissance économique. Ça se voit quand même, n'est-ce pas? Donc, il y a besoin d'avoir des alliés solides en puissance moyenne. Et la France, évidemment, qu'on le veuille ou non, avec le Royaume-Uni, fait partie de ces puissances moyennes. Si. Donc, il y a besoin de mettre sur l'étagère quand même, de la marier, quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le Rafale, puisque la France cherche à le vendre depuis longtemps.
Est-ce que le contrat pourrait être sinon...
annulé.
Sinon amendé, mais en tout cas, même annulé.
Écoutez, c'est la question que je posais. Pour l'instant, on m'a pas donné vraiment de réponse à New Delhi. Mais enfin,
mais la question se pose.
La question est assez simple. Je ne pense pas, pour une raison qui tient à la façon dont l'Inde dépend déjà beaucoup trop de la Russie. Il faut savoir qu'il est en concurrence avec le Sukhoi 30 MKI, que ce Sukhoi ne vaut que 50 millions, excusez-moi du peu, c'est beaucoup quand même, enfin ne coûte que 50 millions, alors que le Rafale, dans la dernière version du contrat, c'est 250 millions. Donc j'en mets 5 de côté de Sukhoi pour un Rafale. Alors la moitié des Sukhoi se scratchent en route, donc il en reste 2,5, mais enfin ça fait quand même 2,5 pour un. Donc, ils ne peuvent pas défendre des Russes. Et ils ne peuvent pas aller évidemment voir les Américains. Donc aujourd'hui, la France dispose effectivement d'une position importante, forte.
Alors il y a une relation d'ailleurs un peu homothétique, j'emploie des mots compliqués pour
ça va, je comprends moi.
Bon, mais moi jusqu'à un certain point d'ailleurs. Alors des relations homothétiques parce qu'au fond l'Inde ne joue pas du tout dans la même cour que la Chine. Je crois que l'Inde c'est le quart du PNB de la Chine ou du PIB et que la France ne joue pas du tout dans la même cour que l'Allemagne en Europe. On a vraiment une sorte de symétrie en miroir.
Oui, mais si vous voulez, c'est à mon avis la problématique de l'affrontement américano-russe pendant des années et des années et des années. La France n'est peut-être pas le super grand en Europe sur le plan économique, mais enfin sur le plan diplomatique, il n'y a pas photo. Vous savez, la réputation de la France en Inde est toujours intéressant de voir comment les autres vous voient, bien évidemment. La réputation, c'est deux choses. Un, c'est France is a green superpower. C'est la superpuissance verte. Alors on peut dire quand même, c'est surprenant. Quand vous vivez en France, vous avez les yeux rouges quasiment tous les jours à Paris maintenant. Ben oui, c'est perçu comme ça. Pourquoi la COP21 est perçu comme un très grand succès. Pourquoi ? Parce que l'Inde a réussi à faire passer à la fois la mascarade, parce que c'est quand même le grand producteur et émetteur de charbon, le troisième émetteur, mais en même temps, il a signé l'alliance pour le solaire avec la France. Donc, si vous voulez, c'est une image très forte de la France. Et la deuxième image, c'est toute la filière aéronautique. Oubliez le Rafale. Il y a des fusées. Il y a EADS,
espace,
il y a Airbus,
aéronautique, espace.
L'espace, c'est pour les Indiens fondamental. L'Inde, sans aujourd'hui l'espace, ses fusées, ses satellites, etc., serait pas autonome, par exemple, face à l'effet El Niño. Et donc, avec la France, il y a un mariage d'amour et de raison.
Alors, qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce qu'on importe de part et d'autre ?
Alors, vous allez vous surprendre, le premier poste quasiment à l'importation d'Inde, eh bien, c'est du diesel. C'est du diesel. Alors les Indiens, vous savez, ils bricolent, hein, c'est le jugad indien. Ils avaient un très fort problème de dépendance en pétrole. Et donc, leur contrainte de balance des paiements est terrible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont construit la plus grande raffinerie du monde. Du monde. Elle est dans le Gujarat. J'ai visité, si vous voulez, c'est comme entre Marseille et Toulon. Hein, c'est immense. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils importent le brut juste en face. Ils sont en face du Golfe d'Oman. Donc, si vous voulez, ça coûte rien, le transport du brut. Ils le transforment. Et pour payer leur brut, eh ben, ils réexportent du diesel. Et ils le exportent à qui ? À la France. Alors ça, il y a du textile, habillement. Nous, on n'importe pas beaucoup de bijoux et de diamants. Vous savez que l'Inde est le premier fabricant mondial de diamants. Taille, en taille. Hein. Et ça, c'est plutôt nos amis belges. Puis après, vous avez les filières qui viennent vers la France en diamants dans les valises, parce que ça coûte un peu moins cher quand même là-bas. Nous, qu'est-ce qu'on exporte ? Et c'est ça qui est important. Ben, des biens d'équipement. Parce que l'Inde, c'est pas un pays où on exporte du bien de consommation. C'est pas qu'ils boivent pas de vin. Mais enfin, le vin français est très cher, très taxé, et ils produisent eux-mêmes du
vin. Alors, il y a la sempiternelle question, José Boileau, la bureaucratie indienne, héritée du Congrès, héritée, etc. En quoi est-ce qu'elle est toujours aussi pesante pour les exportations des Européens ?
Ben, elle est au milieu du Rafale. Fondamentalement, Maudit, bah, qu'est-ce qu'il a fait quand il était venu en France en mars-avril dernier ? Il a dit, allez, je vous l'achète. Bon, 126, c'est trop compliqué, il va le monter sur place, ça va mettre 15 ans avant que vous vous mettiez d'accord sur les transferts de technologie, donc on en prend 36.
Et sur puis, étagère, de là, 2010, oui.
Voilà, sur étagère. Puis à partir de là, bah, la baboucratie. Ça s'appelle la baboucratie. Nous, on a l'énarchie. Eux, ils ont les baboucrates, c'est-à-dire le pouvoir de ces hauts fonctionnaires qui, à la fois, sont les héritiers successifs des Britanniques, des Moghols, des musulmans. Vous savez, ils avaient une bureaucratie quand même très, très forte, et puis de la bureaucratie indienne proprement dite. Donc, cette baboucratie, c'est quoi ? C'est le chassé-croisé permanent entre le ministère de la Défense, les différents départements, puis le PMO Office, qui est le gouvernement bis de l'Inde. Bref, il faut par consensus décider.
Et en plus, c'est une fédération.
Et voilà. C'est une fédération, et puis il faut, en général, décider par consensus. Donc, c'est l'expression de cette fameuse patience qu'il faut avoir, sauf les Russes, parce que les Russes, ils ont payé tout le monde. Ils sont puissants partout, il faut le savoir. La Russie, c'est quand même pas une puissance du passé. Elle reste aujourd'hui quand même relativement active dans le domaine de l'armement. Le lobby pro-russe est extrêmement pesant.
Voilà, on reviendra sur tout cela. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Jean-José Boileau. Je rappelle la découverte de l'économie de l'Inde, très pratique. Et puis demain, alors, Guillaume...
Et où le matin des philosophes, matin puisque des philosophes vont s'emparer de la matinale et ils vont s'emparer aussi des enjeux internationaux. Voici maintenant
La tâche sera dévolue à Michel Etchaninov, qui est rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine.
Oui, mais il sera accompagné par Thierry Garcin, malgré tout.
Ah, je serai derrière les rideaux, comme à la chinoise.
Vous serez, en quelque sorte, son inspiration.
Oui, c'est certainement.